RCF.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous sommes avec Les Neveux de René, une émission consacrée à la découverte de la philosophie. Je suis Nazim Fattès, actuellement en déplacement à Milan. Et donc, je vous propose une émission spéciale qui sera un entretien avec Massimo Amato, professeur d'économie à l'université Bocconi de Milan. Massimo Amato est d'abord un économiste, mais c'est aussi quelqu'un qui a une fréquentation assidue de la philosophie et des philosophes. Et je profite de l'occasion de ce voyage pour m'entretenir avec lui et vous proposer cette discussion sur le thème économie et philosophie.
Chemin de pensée avec les neveux de René.
Alors Massimo Amato, est-ce que vous pouvez en deux mots vous présenter auprès d'un public qui ne vous connaît pas, mais aussi qui serait peut-être intéressé par savoir comment un économiste en vient à être intéressé par la philosophie? D'où vient cet appel vers la philosophie?
Oui, merci et bonjour. C'est une bonne question parce que justement, les économistes, s'ils ont une philosophie, ils la cachent, ils se la cachent et ils ne fréquentent pas ouvertement ce champ qui pour eux, c'est le champ de l'imprécision d'une certaine manière. Le champ de la faillite du calcul, donc le champ qu'il faut vraiment essayer d'effacer d'une certaine manière de l'horizon opérationnel des économistes. Pour moi, les choses ont été assez linéaires, assez simples. J'étais étudiant d'économie, je voulais faire de la philo, mais je me suis dit, au fond, si je fais de l'économie, je vais rencontrer, disons, l'homme. C'était ça ma formulation à 18 ans. Et en faisant mes études d'économie, je ne l'ai pas rencontré, ça c'est vrai. Par contre, j'ai rencontré l'origine de cet effacement qui est la technicisation du discours économique. Donc, si vous voulez, j'ai découvert la question de la technique. Et donc, j'ai découvert Heidegger, j'ai découvert aussi, si vous voulez, l'insuffisance de l'approche marxienne à la technique, qui dit la technique, on l'explique avec les phénomènes économiques, tandis que pour moi, c'est l'économie et donc aussi le capitalisme et en général les formes économiques qui ont à faire avec le rapport de l'homme avec la technique. Et alors, l'humanité se sauve ou se perd selon, disons, les degrés de liberté qu'elle met dans son rapport à la technique. Et donc voilà pour moi la nécessité, en tant qu'économiste, de m'occuper de philosophie.
Merci. Donc, ce qu'on peut retenir de votre premier point que vous évoquez, est-ce que pour vous, il y a une opposition entre l'économie telle qu'elle apparaît comme discipline qui calcule sans cesse et l'économie telle qu'elle vous a attiré en s'occupant de l'homme, etc. Mais d'où vient cette opposition? Pourquoi existe-t-elle? Et au fond, est-ce que l'homme n'est pas, par nature, appelé à calculer tout le temps? Est-ce que c'est pas normal de passer son temps à calculer? Si j'ai un certain nombre de pommes chez moi, ou de poires, ou si je dois entretenir ma maison, n'est-ce pas normal que je fasse des calculs pour savoir quelle est la meilleure conduite à tenir?
Très bonne question à laquelle je commence à répondre en disant que pour moi, il ne s'agit pas d'opposer quoi que ce soit à quoi que ce soit. La question du calcul, tant qu'on l'oppose à d'autres formes de pensée, on la perd. Justement, quand on parle d'économie, on parle de la comptabilité. Donc, si on fait de la comptabilité, on tient compte. Et si on tient compte, on calcule. Et c'est très bien, je veux dire, les gens, disons, sages font ça, c'est-à-dire les bons pères de famille fait ses comptes et il essaye de ne pas déséquilibrer les patrimoines de la famille, etc. D'accord. La question, c'est qu'est-ce qu'il arrive si on se trouve face à quelque chose d'incalculable? Est-ce qu'on les reconnaît? Ou est-ce qu'on on essaye acharnement de les réduire à quelque chose qui rassemble à du calculable? Parce que peut-être que des erreurs qu'on peut faire, une dizaine, des 10 erreurs qu'on peut faire, 9, c'est des erreurs de calcul, et la dixième, c'est une erreur découlant du fait qu'on veut calculer l'incalculable. Et tout ça, c'est pas un discours strictement philosophique, c'est plutôt quelque chose que un économiste comme John Maynard Keynes reconnaît. C'est-à-dire que face à la question de l'action économique, qu'est-ce qui fait commencer l'économie? Qu'est-ce qui fait bouger l'économie? Et ce qui fait bouger une économie capitaliste, c'est l'investissement. Dans le cas de l'investissement, on ne peut pas s'imaginer un acteur économique qui investit seulement sur la base d'un froid calcul, comme il dit. Il faut ce que Keynes appelle en anglais « animal spirits », avec une référence évidemment aux esprits animaux de Descartes, mais aussi, disons, à toute la médecine grecque, et qu'on pourrait traduire dans un bon français avec « élan vital ».
Merci. Alors, vous venez d'évoquer le premier grand nom de cette discipline économique. Alors, le temps, évidemment, nous manque. Il faudrait qu'on passe beaucoup de temps à parcourir un peu l'histoire de la pensée économique. Vous enseignez vous-même l'histoire de la pensée économique depuis les Babyloniens jusqu'à nos jours, à l'Université Bocconi de Milan. Est-ce que, partant de Keynes, vous pouvez simplement, en deux mots, situer où il se trouve dans une évidemment très longue chaîne de penseurs de l'économie, d'où tire-t-il les ferments de sa pensée, et peut-être après, alors je sais que vous-même vous êtes très intéressé à sa pensée, vous la méditez régulièrement, donc qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après Keynes, comment on situe John Maynard Keynes?
Mais avant tout, il faut situer Keynes par rapport à ses sources d'inspiration. Alors, parmi ses sources immédiates, il y a l'ambiance de Cambridge au début du siècle, donc sa fréquentation avec Bertrand Russell, avec Johnson, avec tout, disons, les cénacles, si on peut dire, des logiques, de recherche logique qui à Cambridge sont à l'heure vraiment azimut, d'une certaine manière, parce qu'il y a Ramsay, il y a vraiment une concentration d'intelligence. Il y aura Wittgenstein, il y aura Turing qui sera là. Donc vraiment, c'est l'un des lieux les plus bouillonnants, d'une certaine manière. Ça, c'est la première ligne. Le papa de Keynes, John Neville, c'était un type qui s'était entraîné dans la logique. Il n'était pas un génie. Il finit sa carrière comme administrateur de l'université. Mais le fils prend le relais et il relance. Bon. Donc, c'est très intéressant que Keynes commence sa carrière d'économiste n'est pas faisant de l'économie, mais en faisant plutôt de la logique. Et la logique dont il s'occupe, c'est la logique de la probabilité. À 20 ans, pour son doctorat, il élabore une théorie de la probabilité qui n'est pas une théorie de la probabilité des événements, mais de la probabilité, donc de la probabilité, d'une certaine manière, des jugements. Donc, il pense la théorie de la probabilité non pas comme une branche des mathématiques, mais comme une branche de la logique, il le dit très clairement. Et c'est là qu'il rencontre Aristote. Il dit dans une lettre à un ami, « Est-ce que tu as lu Aristote, l'éthique à Nicomaque ? C'est vraiment un génie, cet homme. » Et dans sa théorie de la probabilité, il y a des références explicites et extrêmement précise à la rhétorique d'Aristote, où Aristote parle de la probabilité. Voilà. Une autre petite question. Quand il est dans une lettre de sa jeunesse, il dit « Je suis vraiment très attiré par la curieuse connexion entre probable et ce qu'on dit, le mot anglais « ought to ». Alors, « ought to », ça veut dire « ça devrait être ». Alors, Il y a une connexion entre ce qui devrait être au sens qu'il est probable et ce qui devrait être au sens qu'il est souhaitable. Donc il y a une connexion entre le calcul et l'éthique, d'une certaine manière. Ça, c'est la question. Et c'est pour ça que Keynes, une fois devenu économiste, dira « l'économie est une science morale ». Et pourquoi elle est morale? Parce qu'elle est toujours confrontée à quelque chose qui échappe au calcul, mais qui est absolument essentiel pour qu'on puisse correctement calculer.
Alors, de façon très intéressante, notre discussion converge vers cette idée qu'il y a de l'incalculable. Il y a donc du non prouvable, il y a du probable. Il y a donc des choses qui échappent peut-être à la formalisation et à la pure scientificité, si je comprends bien ce que vous avez dit. Alors, de façon intéressante, vous avez parlé de cette rencontre entre Keynes et le logicien et informaticien Alan Turing, qui est né en 1912 et qui va mourir en 1954 suite à un suicide. On en a aussi déjà parlé d'Alan Turing dans cette émission des Neveux de René. Et puis, il faudrait qu'on lui consacre une émission en plein. Alors, Turing est connu justement pour être le savant, le logicien, qui a prouvé qu'il y avait de l'incalculable, à la suite de Gödel, mais dans un cadre bien plus large que celui qu'avait fait le logicien Kurt Gödel en 1931. Alors ça, c'est intéressant. Mais il me semble que Turing s'en tient à de l'incalculable, entre guillemets, démontrable, alors que dans l'économie, on va aller vers un incalculable qui n'est plus que de la logique, mais peut-être sur un autre terrain. Et c'est peut-être ça que vous avez cherché dans la pensée de Martin Heidegger. Mais on y reviendra plus tard. Peut-être, avant de faire une toute petite pause musicale, peut-être vous pouvez nous parler, Massimo Amato, d'un livre qui va être édité en France récemment, et qui est un texte d'un grand économiste italien qui s'appelle Claudio Napoleoni.
Oui, très volontiers. C'est un texte que j'ai traduit pour les éditions Garnier, qui va paraître dans les prochains mois. Un texte de 85 qui porte justement sur la question de la possibilité ou de l'impossibilité de réduire la démarche de l'économiste à une démarche de pur calcul. Alors, je vais vous lire une phrase qu'on trouve à un certain moment dans le troisième chapitre de ce petit livre. C'est un petit livre, mais très, très, très important pour les questions qui nous intéressent ici. Il dit, Napoleoni, « L'économie politique semble une discipline singulière. Singulière en ceci, que si elle est ramenée à une forme scientifique, entre guillemets scientifique, entre parenthèses, d'après les paradigmes donc des sciences naturelles, on sait, toujours entre guillemets, indépendamment de la possibilité de fonder ou même seulement de bien argumenter ces savoirs, que quelque chose d'essentiel est perdu. D'essentiel, attention, pour la connaissance des choses de ce monde. Alors, l'incalculable auquel Napoléon y fait référence, d'une façon tout à fait, avec des chemins tout à fait différents de ceux de Keynes, parce qu'au fond, Napoléon connaît très peu Keynes, il connaît beaucoup mieux Marx, c'est de dire l'incalculable n'est pas quelque chose qu'on trouve à un certain moment dans une démarche, comme une sorte d'obstacle, mais c'est quelque chose avec lequel il faut savoir entretenir un rapport dès le début et pour qu'il y ait un début, un commencement. C'est-à-dire que, pour le dire de façon immédiate, l'économie ne pourrait pas avoir de commencement si on attendait que le calcul démontre la faisabilité et la souhaitabilité de ce qu'on fait.
Chemin de pensée sur RCF.
Alors, nous reprenons la discussion avec Massimo Amato. Nous discutions de cette nécessité pour un professeur d'économie d'aller regarder du côté de la philosophie et nous avons évoqué les noms de Claudio Napoleone. Nous avons parlé de Keynes, qui est évidemment un nom majeur de la science économique. Nous avons parlé de Turing et de cette question de l'incalculable et nous avons parlé d'un regard vers Martin et des guerres aussi en rapport avec cette question de l'incalculable. Alors, on sait que l'économie se présente elle-même comme une science, hein, à la vocation à la scientificité. Alors, est-ce qu'on peut vraiment lui accorder le statut de science? Et puis, qu'est-ce qu'une science, au fond?
À la deuxième question, c'est très difficile de répondre. Peut-être qu'une science... Et donc un savoir qui se veut fondé doit prendre soin de ses fondements, avant tout. Et peut-être que s'il y a, depuis Descartes, et on le sait, un élément unificateur en deçà, d'une certaine manière, et au-delà des objets d'analyse, et qui est la méthode, il faut bien dire que la méthode de chaque science ne doit pas empêcher cette science de reconnaître son objet dans ses limites. Alors, quel est l'objet de l'économie et d'où viennent les limites, c'est-à-dire les frontières qui dessinent cet objet? Bon, l'objet de l'économie, c'est les décisions des hommes face à un avenir incertain, pas simplement improbable, mais incertain. Décisions qui ne peuvent pas se passer de se confronter avec ça. C'est-à-dire que la dimension de la temporalité est absolument centrale dans les choix économiques. Et cette temporalité, c'est une temporalité pas seulement et pas surtout vécue, mais disons attendue. C'est-à-dire que la question, c'est le rapport à la temporalité. En économie, ça donne lieu au problème des attentes. Alors, il y a, par exemple, toute une théorie, toute une mouvance à l'intérieur de l'économie qui parle de attentes rationnelles, rational expectations. Mais les attentes rationnelles, c'est des attentes qui détruisent la dimension du temps, c'est-à-dire qui prétend pouvoir réduire le futur à une dimension de présent sans limite. Alors, mais les présents sans limite, c'est l'éternité. Et l'éternité, c'est le temps de Dieu, c'est pas le temps de l'homme. Et Dieu n'a pas d'économie. On pourrait, à ce point-là, dire, il y a économie justement parce qu'il n'y a pas d'éternité, parce qu'il n'y a pas de point fixe auquel accrocher nos décisions. Alors, reconnaître ça, ça serait la première démarche, je ne sais pas si scientifique, mais en tout cas la première démarche d'honnêteté intellectuelle du côté des économistes. Il y a, et là, peut-être que je peux terminer avec une anecdote, mais qui est très révélatrice, ou révélateur, je ne me souviens plus.
Révélatrice.
Alors, mon français n'est pas si mauvais que ça. C'est Keynes que, dans les premiers chapitres de sa théorie générale, où évidemment il est tout de suite question des attentes et de la dimension temporelle, dit ce qui suit. Il dit les économistes classiques, comme il les appelle, donc les économistes tels qu'on les connaît jusqu'ici, rassemblent à des géomètres euclidéens dans un monde non euclidéen. Et qu'est-ce qu'ils font les géomètres euclidéens dans un monde non euclidéen? Ils reprochent au parallèle de se rencontrer. Tandis que, évidemment, la démarche scientifique, ça serait tout simplement de changer de géométrie. Alors, on sait bien qu'en changeant de géométrie, c'est en changeant de géométrie que la physique est passée à la relativité. Et alors, Keynes, qui connaît très bien Einstein et qui s'imagine comme une sorte de Einstein de l'économie, dit il faut faire en économie exactement ce que la physique a fait en physique, c'est-à-dire reconstituer le rapport à l'espace de la décision économique.
Alors, juste pour ramasser cette expression très parlante de Keynes, pour donner quelques repères aux auditeurs, hein, on sait que la géométrie dite euclidienne, en fait, c'est la géométrie classique telle qu'elle a existé depuis les Grecs, axiomatisée par Euclide jusqu'à nos jours. Et donc, un petit peu de contexte, c'est simplement pour dire que, évidemment, dans cette géométrie, il y a des axiomes, c'est-à-dire ce qui va fonder la théorie et qu'on ne prouve pas, et il y a les théorèmes, ce qui est prouvé à partir des axiomes. Et un des grands problèmes mathématiques, mais aussi philosophiques, c'était que dans la géométrie dite euclidienne, on doit admettre que deux parallèles ne se rencontrent jamais. Pour dire les choses rapidement, en fait, faut aller un peu plus dans les détails, mais c'est-à-dire je prends deux droites parallèles, je peux les prolonger sans qu'elles ne se rencontrent jamais. Et la grande surprise du XXe siècle, c'était de trouver qu'il y avait des géométries qui étaient parfaitement cohérentes, qui n'amenaient pas à des contradictions, dans lesquelles les parallèles se rencontraient et se coupaient. Et ce que dit Wittgenstein, c'est ça, c'est-à-dire si je me trouve dans une géométrie où les parallèles se recoupent, je ne peux pas reprocher au monde d'être tel qu'il est, hein, c'est bien ça.
Exactement, c'est un très beau lapsus, vous avez dit Wittgenstein, mais c'est Keynes, mais justement, mais Keynes et Wittgenstein se connaissent, oui. Ils s'apprécient, et ils savent très bien, les deux, qu'il y a de l'indémontrable, pas seulement à la base, mais dans la trame de nos démonstrations. Si vous voulez, ça c'est la question fondamentale. Donc c'est pas question de dire on connaît les 90% et le reste on devine. C'est que pour connaître quoi que ce soit, il faut faire face à ce qu'on connaît pas.
Alors simplement pour terminer cet entretien dans les 2-3 minutes qu'il nous reste, est-ce que, alors là aussi il faudrait faire des émissions entières, mais est-ce que vous pouvez résumer comment Heidegger a été pour vous une source d'inspiration dans votre réflexion que vous menez sur l'économie, sur l'existence d'un un incalculable et donc des limites de la science? Il s'agit évidemment pas de nier la science, il s'agit pas de dévaloriser la science, mais simplement prendre en vue ses limites. Alors, comment la lecture et la méditation patiente des textes de Heidegger vous donne une vue différente, peut-être faire un pas de côté dans la science économique?
Voilà, la première chose à dire, c'est vraiment de redire avec force que chez Heidegger, il n'y a aucun mépris de la science, aucun phobie de la technique, mais tout simplement la tentative très honnête de les penser. Et face à la technique en particulier, il y a cette phrase qui est au tout début de la conférence sur la technique des 53, où il dit ce qui est en jeu avec die Frage nach dem Technik, donc la question qui suit vraiment d'après l'effervescence, les déploiements de la technique, c'est justement l'enjeu, c'est d'avoir un rapport libre avec la technique. On est dans un monde où la technique n'est pas tout simplement l'un des éléments du décor, mais c'est la voie de l'être. Alors, cette technique, en tant que voie de l'être, exige de nous pour nous libérer, parce que voilà la promesse de la technique. On libère l'homme de la fatigue, on libère l'homme même de la mort, d'une certaine manière, mais on libère l'homme, disons comme ça. Alors, pour que l'homme soit vraiment libéré par la technique, il faut qu'il soit libre vis-à-vis de la technique. Et donc, qu'il sache dire oui et non à la technique. Ça, c'est le discours que Heidegger, en toute simplicité, fait à ses concitoyens dans l'occasion de la commémoration de Konrad Kreutzer, et qui est, que tout le monde connaît, sous le nom de Gelassenheit, c'est-à-dire sérénité. Alors, la question, c'est justement, est-ce qu'il faut savoir dire oui et non aux objets de la technique? Mais il faut savoir dire oui quand il faut dire oui, il faut savoir dire non quand il faut dire non. Donc il faut savoir distinguer entre ce qui est du ressort de la technique et ce qui ne l'est pas.
Eh bien, merci beaucoup Massimo Amato pour toutes ces pistes extrêmement riche que vous venez de développer. Évidemment, on ne peut pas faire le tour de questions aussi grandes, aussi importantes en 2 minutes, mais comme toujours, une discussion, un entretien, ce sont des chemins, ce sont des pistes, et nous espérons que nos auditeurs continueront à suivre à partir des noms évoqués, continueront à creuser ces questions, et nous espérons en tout cas, au neveu de René, vous recevoir prochainement, que vous faites des séjours très réguliers en France, donc j'espère que nous aurons prochainement l'occasion de vous recevoir et de discuter une autre fois pour approfondir ces questions. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot et peut-être aussi donner quelques conseils de lecture aux auditeurs qui souhaiteraient creuser cette question philosophie et économie?
Alors, 3 suggestions. Bon, la première, c'est évidemment c'est technique, mais ça vaut la peine de se confronter avec la théorie générale de Keynes. Peu importe si les technicalities, comme on dit, ne sont pas comprises, mais il y a un souffle dans ce texte qui se veut texte fondateur. C'est une théorie générale, justement. Donc, l'idée, c'est de poser les jalons pour toute théorie et pour tout modèle à venir. Donc, la première suggestion, c'est Keynes. La deuxième, comme le livre va paraître en français, c'est la suggestion de lire les discours sur l'économie politique de Claudio Napoleoni, qui va paraître aux éditions Garnier, Classique Garnier. Et puis, si je peux me permettre, il y a, pour ceux qui sont intéressés à ma manière de faire face à la question de l'économie, du calcul, et disons, d'économie et philosophie, en ce qui concerne les limites du calcul, j'ai écrit un livre qui est sorti en français, qui s'appelle « L'énigme de la monnaie », aux éditions du CERF, qui pourrait donner des pistes, parce que c'est là que, au moins, comme on dit, j'étale, disons, mes connaissances, c'est-à-dire je parle des philosophes et des philosophies et des questions qui sont, à mon avis, centrales pour comprendre cette question fondamentale du rôle du calcul en économie.
Massimo Amato, grazie mille.
Grazie a voi.